Bonjour à toutes et à tous, au micro Serge Bounig du groupe Tislet de l'Académie d'Orléans-Tours. Je vous souhaite la bienvenue, fidèles ou nouveaux auditeurs, à l'occasion de notre 12e émission des souris et des lettres. Comme à l'accoutumée, celle-ci est placée sous le parrainage de Madame Pinsard, IPR de lettres de notre académie, et pilotée avec dévouement et efficacité par Philippe Godiveau et Adeline Buisson. Vous pourrez également écouter les interventions d'Angélique Voisin, de Christelle Delaz, d'Olivier Capès et de Clément Bigot, ainsi que des bonus audio réalisés par Marie Pourriot. La réalisation technique est aujourd'hui assurée par notre expert Baptiste Voisin avec les moyens fournis par le CRDP d'Orléans, que nous remercions une nouvelle fois pour son accueil attentionné. Le rendez-vous auquel nous vous invitons aujourd'hui ouvre un nouvel espace à la réflexion pédagogique. Il va s'interroger sur le positionnement de l'enseignant de lettres avec les TIS. Et très vite, lors de la préparation de l'émission, nous avons tous constaté autour de ce micro que ce n'était pas vraiment les outils TIS qui seraient au centre de nos propos. En fait, les contributions portent plutôt sur les relations nouvelles permises par ces outils entre les élèves et leurs professeurs de lettres. Ce dernier est ainsi conduit, conformément aux indications fournies par la 7e compétence du socle commun, à utiliser au mieux des instruments lui permettant de favoriser l'autonomie et l'initiative des jeunes dont il a la charge, lorsque ceux-ci doivent fournir un travail ou réaliser un projet. Et vous verrez, chers auditeurs, à travers les interventions de chacun d'entre nous, que cette compétence peut être valorisée à divers degrés, aussi bien au collège qu'au lycée. Les Et pour lancer une telle émission, je ne connais rien de mieux que de confier le micro à Adeline Buisson. Celle-ci possède un véritable secret pour mettre les idées en perspective et stimuler ainsi la réflexion de chacun. Aujourd'hui, elle flatte même nos égos, puisqu'elle souhaite nous prouver qu'en abordant le positionnement du professeur de lettres avec les TIS, nous sommes au cœur de l'actualité. Adeline, je te laisse donc la parole pour ton édito.
Merci beaucoup Serge. Chers auditeurs, bonjour à tous. Alors vous le savez, le numérique est au cœur du projet de refondation de l'école. Sur les 25 clés qui sont proposées par notre ministre, pas moins de 4 ont trait directement à ce thème qui nous est cher, bien entendu. Notre émission va interroger aujourd'hui, Serge vous l'a dit, un thème qui mériterait en soi plusieurs émissions, puisqu'il s'agit d'interroger les nouvelles postures, les nouveaux positionnements de l'enseignant avec les TIS. Le traditionnel tableau vert et la craie cèdent de plus en plus souvent la place au TNI, le tableau numérique interactif. Les manuels papier, quant à eux, se dématérialisent au profit, de contenus numériques. Les tablettes circulent aussi parfois dans les classes. Quid alors de l'enseignant au milieu de ces nouvelles technologies? Le savoir est désormais partout, à portée de clic de tous les enfants, nos élèves qui surfent sur la toile de plus en plus jeunes. Pour approfondir le sujet, on peut par exemple s'intéresser aux travaux de recherche de Luc Trouche, qui est professeur des universités et directeur de recherche à l'IFE, l'Institut français de l'éducation, et dont les travaux portent sur le renouvellement des pratiques pédagogiques impulsées par l'intégration du numérique, le sujet qui nous intéresse justement aujourd'hui. Luc Trouche aborde pêle-mêle le changement de référentiel du point de vue des temps et des espaces éducatifs, les nouveaux équilibres entre le travail dans l'école et le travail hors l'école, un sujet qui fait souvent débat en salle des professeurs. Et ce sont tout à la fois les modèles de ressources pédagogiques qui sont à repenser, autant finalement que la documentation des professeurs, le travail même de préparation de nos cours, et puis cette posture nouvelle qui apparaît de l'enseignant concepteur. Et puis il reste aussi la question de l'éducation au numérique qui incombe à chaque enseignant. Un dernier chiffre pour finir. Saviez-vous que 2/3 des 7-15 ans préfèrent, lorsqu'ils se posent une question, quelle qu'elle soit, interroger Google plutôt que leurs parents ou leurs enseignants? Bonne émission, chers auditeurs.
Je vais maintenant me tourner vers Angélique Voisin et Philippe Godiveau. Vous avez souhaité aborder la rubrique du sujet du jour sous une forme dialoguée, vous permettant de mieux confronter les expériences et de creuser la réflexion. Votre propos, mettre en relation savoir, TBI et tablette. Mais là, chers amis, je m'interroge. S'agit-il pour vous de nous proposer un nouvel éloge de ces outils TIS? Et cet éloge est-il encore nécessaire et même pertinent en 2013?
Eh oui, Serge, l'heure n'est plus à se questionner aujourd'hui sur l'utilisation du TBI dans nos salles de classe. Sa présence dans les établissements s'est banalisée. Les enseignants qui en sont dotés sont très enthousiastes, les élèves également, et cet engouement pour une utilisation du numérique dans l'enseignement a généré de nombreux questionnements sur les outils à mettre à disposition, des enseignants comme des élèves.
En fait, il est normal d'être séduit par les possibilités qu'offrent ces outils. Toutefois, on doit s'interroger sur les changements pédagogiques que leur utilisation implique. Ce n'est pas l'outil en soi qui est interrogé, mais l'utilisation professionnelle qui en découle, ainsi que le rapport au savoir qu'il instaure. Pour ma part, je crois qu'une des avancées essentielles dues au TIS réside dans la dédramatisation de l'erreur. Un TBI, par exemple, est un lieu d'expérimentation, où l'on essaie, où l'on prend des risques, où le savoir se construit par l'essai. En un clic, on peut revenir à un état antérieur du document, effacer l'erreur commise, mais au préalable, l'enseignant a pu réfléchir avec les élèves sur celle-ci et remédier. Le rapport au savoir me semble en quelque sorte pacifié, décomplexé.
À peu près. J'ajouterais le savoir presque comme un troisième intervenant. L'univers de la classe serait l'articulation entre ces trois composantes et les relations nouvelles qu'elles entretiennent. C'est ce que Michel Serres appelle la présomption de compétence, c'est-à-dire le fait que les élèves ont à portée de clic les savoirs, et qu'il s'agit désormais aux professeurs de s'assurer de leur acquisition, de leur augmentation et de leur mémorisation.
Alors moi, tu sais, hein, l'expression « les élèves ont à portée de clic les savoirs », moi je trouve que ça peut poser problème. Est-ce que tu ne trouves pas qu'une telle expression pourrait réduire le savoir à un accessoire un peu quelconque, on va dire juste bien présenté, joliment mis en forme?
Non, ça leur met plutôt les savoirs à leur juste place. Ce n'est pas présenter des savoirs qui est important, mais l'utilisation que les élèves sont capables d'en faire. Peu importe finalement si mon cours est plus esthétique, si finalement l'élève n'en fait rien de plus. Ce qui m'intéresse, c'est que le savoir devient un matériau beaucoup plus malléable. Donc c'est ce que je disais, c'est pas le savoir qui m'intéresse, mais la manipulation que les élèves en font. Quel que soit l'outil utilisé, la conservation des traces de l'élève est possible et mise en avant. C'est un changement beaucoup plus important qu'il n'y paraît. La possibilité toute simple, par exemple, d'enregistrer le document en cours d'élaboration rassure les élèves. Le cours suit leur rythme. Il n'y a rien de perdu, ils peuvent tout retrouver. À la fin de l'heure, ce qui n'a pas été noté peut être retrouvé la prochaine fois. Mes élèves ne sont pas réduits à de simples secrétaires occupés à noter soigneusement ce qui apparaît au tableau. Ils notent ce qu'ils ont construit à la fin de l'activité, à laquelle ils ont pris une part active. L'étape du cours la plus importante est celle de la construction, pas celle de la transcription. Le stockage de ces informations est un autre problème qui met en œuvre leur autonomie en construction. Pourquoi conserver les traces d'un cours, d'une séquence ou d'exercice? C'est une base de travail très intéressante pour interroger ses propres progrès et pouvoir réviser.
Alors moi, à ce titre, le TBI et la tablette me paraissent être de formidables outils pour reconvoquer le savoir ou le mémoriser, et surtout en utilisant plusieurs canaux, visuels, auditifs et même maintenant tactiles. Ces deux outils, pour moi, introduisent des modifications de perception et répondent aux différentes formes d'intelligence chez tous les élèves.
Oui, la construction collaborative paraît très intéressante. Le TBI conserve une trace du savoir en construction. En cela, il est un élément essentiel de l'apprentissage par métacognition. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, mais la manière dont on réfléchit l'enfant. On s'écarte ainsi radicalement d'un modèle d'enseignement purement transmissif.
Oui, mais là, je mettrais juste un petit bémol. Il faut encore établir une distinction précise entre collaboration et coopération. Car beaucoup d'enseignants pensent faire travailler leurs élèves de manière collaborative, alors qu'ils ne font que répartir des sous-tâches qui sont ensuite assemblées pour former un tout. La collaboration consiste à travailler tous ensemble sur la même tâche et le même support. On s'aperçoit, en partant de là, que nos pratiques pédagogiques ont encore une grande marge de progression.
Oui, cela vaut aussi pour l'utilisation de tablettes. Quand j'utilise ma tablette pour faire une dictée, par exemple, je passe ma tablette aux élèves qui peuvent écrire leurs phrases tour à tour, sans que les autres ne voient leur écrit. quand je projette l'ensemble. La correction des erreurs est beaucoup plus dynamique, moins complexante, et aussi beaucoup plus rapide qu'avec un tableau traditionnel. De plus, le texte final est le texte des élèves, mais corrigé. Donc ce n'est pas une version quasi parfaite dans laquelle l'erreur n'a pas sa place. La bonne version est celle justement qui a intégré les erreurs et qui les a dépassées grâce à un raisonnement pertinent. On passe de l'individuel au collectif. L'élève n'est pas seul face à ses erreurs ni à ses apprentissages. Le cours se construit avec le groupe classe que l'enseignant guide.
Voilà, alors là tu soulèves un autre problème, hein. C'est ce rôle nouveau qu'il faut interroger pour l'enseignant. En fait, comment se positionner pour favoriser les allers-retours entre collectif et individuel? Pour moi, vois-tu, il y a deux notions à remettre à plat car leur confusion a une grosse incidence sur l'acte pédagogique. Interaction et interactivité, qui sont deux choses bien différentes. Le tableau blanc est interactif car l'action de l'élève entraîne une réponse du produit, mais en aucun cas cela n'implique une quelconque interaction. Cette dernière, comprise comme l'échange entre les élèves qui s'écoutent, modifient leur représentation en prenant en compte la parole de l'autre, aucun outil, si performant soit-il, ne peut l'induire. Seul l'enseignant peut jouer le rôle de médiateur et orchestrer le rapport au savoir. Il n'y a que lui qui puisse associer interaction et interactivité.
C'est un peu se décentrer pour jouer les chefs d'orchestre et ne plus avoir le rôle de virtuose du savoir. Ce n'est pas toujours si évident que cela. Cela se construit aussi petit à petit avec les élèves. Je dis bien avec les élèves, pas avec un seul élève. C'est la dynamique de classe qui est modifiée. Il n'y a pas que celui qui intervient sur l'outil qui travaille. Les autres élèves savent qu'ils peuvent, eux aussi, très rapidement, devenir acteurs de l'apprentissage. Mais pour cela, l'utilisation régulière de l'outil est nécessaire et cela va de pair avec une participation beaucoup plus active et beaucoup plus maîtrisée des élèves.
Alors, plus maîtrisée, d'accord, mais je dirais surtout plus enrichie. Moi, je vois dans les tablettes un outil de premier ordre pour aider les élèves à lire. On peut avant tout travailler sur la matérialité du texte, taille, police, espacement des caractères, interligne, mais également à tout moment avoir accès par exemple à un dictionnaire en ligne d'une simple pression du doigt sur un terme. Les TIS lèvent ici un obstacle au décodage et à la construction du sens.
D'autant plus si cette méthode de travail est commune à plusieurs professeurs. Et ce partage des ressources informatiques ne s'arrête pas là. Si des liens peuvent se faire entre les différentes œuvres étudiées, la gestion des espaces de stockage peut les faciliter.
Oui, mais enfin, faut encore que l'élève en ait conscience. Et c'est bien là le rôle du professeur est essentiel.
Oui, mais de même que ranger et organiser son classeur n'est pas une chose simple et aisée pour un collégien, mais présuppose aussi un apprentissage. Gérer ces espaces de stockage s'apprend. Mettre en lien les données qui y sont conservées présuppose également une réflexion, un retour réflexif sur les connaissances apportées qui ne va pas de soi. Cette posture face au savoir s'apprend et se construit par les enseignants. Mais encore une fois, cela modifie notre posture face à l'acte d'enseigner. Les passerelles sont plus riches, se multiplient, à nous d'accentuer et de mettre en avant les multiplicités de sens qu'elles construisent, afin de rendre l'outil informatique efficace et non accessoire.
Les souris et les lettres.
Comme je l'indiquais en guise d'introduction de notre émission, notre préoccupation d'enseignant de lettres est de valoriser l'initiative et l'autonomie de chacun de nos élèves. Au lycée, l'institution a fourni un cadre particulièrement propice à la mise en œuvre de cette 7e compétence du socle. Il s'agit des TPE, c'est-à-dire les travaux personnels encadrés. Enseignant en première L cette année au lycée Potier d'Orléans, j'ai pu mieux mesurer l'intérêt et l'impact d'un tel dispositif. J'ai donc souhaité, chers auditeurs des Souris et des Lettres, vous faire part de cette expérience nouvelle pour moi dans la rubrique « Il témoigne ». Rassurez-vous, je ne monopoliserai pas trop le micro, car je vous ferai écouter le témoignage de certains de mes élèves impliqués dans un projet qui a vraiment stimulé leur esprit d'initiative. En tant que professeur, je dois d'abord fixer le cadre. Les TPE doivent permettre aux élèves des classes de première générale d'élaborer par groupe d'environ 3 ou 4 élèves des projets pluridisciplinaires de recherche scolaire. Ces groupes sont amenés, dans le cadre de vastes domaines fournis par les textes officiels, à élaborer un sujet précis et une problématique qui guideront l'ensemble de leur travail. Ils consacrent 36 heures de leur emploi du temps à raison de 2 heures par semaine à ce projet qui est finalement évalué comme une épreuve anticipée du baccalauréat. 2 points ont particulièrement retenu mon attention en tant que professeur chargé, avec ma collègue d'histoire-géographie, Madame Ruffier, d'encadrer ces TPE. D'une part, c'est le décloisonnement disciplinaire qui oblige les élèves et les professeurs à ne plus penser de façon compartimentée, mais à mieux percevoir l'étendue et la richesse de certains sujets. D'autre part, la grande liberté qui est offerte aux élèves dans l'organisation de leurs recherches et dans le choix de leur support de production. Cette liberté a aussi des conséquences sur le positionnement des professeurs, qui doivent encadrer les groupes, mais ne doivent surtout pas brider leur esprit d'initiative. Ma collègue et moi-même avons à superviser cette année 8 projets très différents. À titre d'exemple, on peut évoquer les dangers de la télé-réalité, dénoncés à travers la production d'une émission parodique, l'étude comparative sous forme d'un diaporama PowerPoint des pouvoirs et super-pouvoirs des héros antiques comparés à ceux des héros de certaines bandes dessinées contemporaines, ou encore les controverses du XVIIIe siècle à propos de l'esclavage, représentées dans la mise en scène d'une réécriture de l'île des esclaves de Marivaux. On voit bien à travers ces sujets et à travers les productions qui les accompagnent que le professeur de français doit se positionner à chaque fois de façon très différente. J'ai choisi pour mieux illustrer cela le projet d'un groupe composé de Kevan, Mehdi, Fanny et Amandine. Mais laissons d'abord Kevan nous présenter son projet.
Donc tout d'abord, le choix du sujet a été fait parce que personnellement, je trouve que le sujet est intéressant et passionnant, et mes camarades étaient motivés à l'idée de faire un travail qui concerne nos ancêtres et qui concerne l'histoire de notre pays. Nous avons tout d'abord décidé de nous orienter vers la censure dans le XXe siècle en général, puis nous nous sommes aperçus que le sujet était trop vague et trop abstrait. Ne trouvant pas de thème précis, la proposition de notre professeur d'histoire de choisir comme thème la censure pendant la guerre d'Algérie a été acceptée et nous avons donc commencé les recherches sur ce sujet. D'autant plus que les arguments sont vastes car la censure pendant la guerre d'Algérie a été très présente et aussi très importante.
Donc voilà un travail a priori très historique par rapport auquel le professeur de français a du mal à trouver sa place. En fait, les élèves ont peu à peu modifié ce cadre historique en orientant leurs recherches sur la mémoire de la guerre d'Algérie. En effet, 3 d'entre eux ont un grand-père encore vivant ayant combattu soit du côté de l'armée française, soit du côté du FNL. Ils ont donc décidé d'interroger ces acteurs privilégiés de l'événement historique et de confronter ces témoignages. Un travail particulièrement précis sur la formulation des questions s'est avéré nécessaire, non seulement pour obtenir des réponses exploitables, mais aussi pour ne pas perturber ces témoins en abordant un sujet encore très sensible pour eux en 2013. Le professeur de français, mais aussi sa collègue d'histoire, ont été très sollicités au moment de la rédaction des questionnaires et c'est Fanny qui nous décrit maintenant les étapes de l'élaboration de ceci.
Donc l'idée, c'était de réaliser un seul questionnaire identique pour pouvoir poser les mêmes questions à nos grands-pères. Donc tout d'abord, on a rédigé des questions portant sur les aspects de notre TPE, comme par exemple l'engagement de chacun, les relations avec le reste de la famille pendant la guerre et le poids de la censure. Notre professeur d'histoire nous a guidés dans la manière de les rédiger puisque certaines questions pouvaient choquer nos grands-pères. Ensuite, on a décidé de contacter par mail une historienne, donc Malika Rahal, afin qu'elle puisse relire nos questions, les améliorer et aussi nous guider dans les choses à faire et à ne pas faire. Et voilà, donc ensuite en 3e étape avec Mehdi, Amandine et moi-même, nous sommes allés questionner nos grands-parents et les filmer et les interviewer séparément pour avoir leur avis. Et pour finir, on a procédé au montage final en juxtaposant leurs réponses afin de pouvoir comparer leurs réponses.
Au cours du projet, le professeur de français semble en retrait. mais en réalité, il est un observateur vigilant, respectant l'autonomie de ses élèves, mais intervenant lorsque cela est nécessaire pour que la meilleure communication possible s'établisse entre ceux-ci et les témoins de l'histoire. Ce professeur de français peut également aider le groupe dans le choix et le maniement des outils numériques permettant de mener à bien les recherches, mais aussi de mettre en œuvre le support de production. En effet, il s'agit pour les élèves, dans la phase de l'évaluation, de convaincre le jury de l'épreuve anticipée du baccalauréat de l'efficacité du travail entrepris. C'est Amandine qui nous parle des outils nécessaires pour cela.
Alors, nous avons utilisé des outils différents en fonction des besoins, mais aussi pour les étapes du TPE. Alors, nous avons, pour faire les recherches historiques au CDI, on a utilisé des livres imprimés, mais aussi des informations et des images récoltées sur Internet. Pour communiquer avec la spécialiste de la guerre d'Algérie, on a obtenu son adresse mail et on a communiqué par messagerie, car cette dame enseigne et habite à Paris. Elle nous a même proposé de faire une visioconférence, car elle était très intéressée par notre sujet. Pour filmer nos grands-pères, nous avons utilisé un appareil photo numérique. Pour monter le film, on a choisi le logiciel Magic 2005 pour sa facilité d'utilisation. Et pour présenter notre TPE, nous avons accompagné nos exposés d'un diaporama PowerPoint.
Mais Amandine a aussi voulu insister sur le fait que le recours à de tels outils n'allait pas toujours de soi. Écoutons-la à ce propos.
Donc sur Internet, la difficulté était de sélectionner des documents, car parfois il y en avait beaucoup trop, mais aussi parfois très peu, ce qui est normal pour un sujet portant sur la censure. On a monté le film à partir de 3 interviews différentes. Ça a été très long et très minutieux, et surtout Mehdi a dû partir en Algérie pour filmer son grand-père, car il était trop âgé pour maîtriser la visioconférence.
Et oui, chers auditeurs, vous avez bien entendu. L'un de nos élèves était tellement impliqué dans ce travail qu'il a souhaité donner tout leur sens aux mots d'autonomie et d'initiative. Et il n'a pas hésité à franchir la Méditerranée pour recueillir le témoignage de son grand-père. Pour lui, il était impensable de trahir la confiance des autres membres du groupe en rendant impossible la confrontation des mémoires. Mehdi évoque, en guise de conclusion à cette rubrique, cette expérience de communication intergénérationnelle hors du commun.
En fait, il en a parlé parfois comme ça avec mon grand frère, mes cousins ou moi-même. Mais ce sujet a souvent été tabou en Algérie. Mais mon grand-père, malgré ce qu'il a enduré et vécu, il a été facile de le convaincre à m'en parler. Et car c'est quand même une fierté du côté de ma famille, enfin même en Algérie pour les anciens combattants. Puis j'ai fait le voyage par Alger pour avoir son témoignage. Donc il était un peu obligé. Après réflexion, cela s'est passé naturellement et assez facilement. D'ailleurs, il n'a pas été intimidé face à la caméra. Cela s'est passé tout simplement comme une discussion entre grand-père et petit-fils.
Dans les collèges, comme dans les lycées, de nouveaux outils TIS viennent peu à peu compléter ou remplacer ceux qui sont mis à la disposition des enseignants pour renouveler leurs pratiques pédagogiques et les rendre plus efficaces. Parmi ces outils, on compte les ENT qui se sont déployés dans tous les établissements du secondaire au cours des dernières années. Christine Delas et Angélique Voisin ont été des pionnières dans la manipulation des ENT dès leur apparition dans leurs collèges respectifs. Mais il ne s'agissait pas pour elles de se distinguer de leurs collègues en mettant en avant leur expertise dans le domaine informatique. Leur objectif commun était d'évaluer l'efficacité de l'outil dans l'accompagnement du travail personnel de leurs élèves. C'est pourquoi nous avons choisi de recueillir le fruit de leurs expérimentations et de leurs observations dans la rubrique « Ils n'apprennent plus comme avant ». Mais Christelle, j'ai parlé d'ENT comme si ces 3 lettres étaient automatiquement décodées par tous nos auditeurs. Peux-tu rappeler en quelques mots de quoi il s'agit pour ceux d'entre eux qui se sentiraient un peu dépassés ?
Bien sûr, Serge. Alors, l'ENT est un espace numérique de travail qui est accessible par un portail Internet. Il existe actuellement plusieurs formes d'ENT, comme Envol par exemple ou Net-au-Centre. Cet espace est destiné à tous les acteurs de l'école, les élèves, les parents, les professeurs, l'administration et la direction. Mais l'accès est sécurisé et partiel selon le public choisi. Il faut un login et un mot de passe pour se connecter.
Et qu'est-ce qu'on peut y trouver ? J'imagine que toutes les personnes que vous venez de citer ne viennent pas chercher la même chose.
Bien sûr, tu as tout à fait raison, Serge. Il s'agit à la fois d'un espace administratif et pédagogique. Les fonctionnalités que l'on peut insérer dans un ENT sont multiples. Les familles, comme les professeurs, ont accès à la diffusion d'annonces, par exemple, à l'accès aux notes, aux cahiers de textes en ligne, au suivi des absences. Et plus spécifiquement, les professeurs ont un accès vers leur boîte de courrier électronique ou peuvent réserver des salles informatiques.
Oui, en fait, tous ces outils existaient déjà auparavant, mais l'ENT permet de centraliser ensemble. C'est un côté beaucoup plus pratique. Dès que je me connecte en tant que professeur, les principales informations du collège, les voyages, les sorties, les stages apparaissent. Ensuite, je peux aller vérifier mon emploi du temps, les devoirs que j'ai donnés à une classe. Si j'en ai besoin, selon ce que j'ai pu voir, je vérifie que la salle informatique est libre, je peux la réserver. Je vérifie également mes mails pour gérer les projets que j'ai en cours avec les autres collègues. En ce qui me concerne, c'est davantage une vision beaucoup plus globale de mes ressources. Tout est à portée de clic. Pour les parents, c'est à peu près pareil. Ils peuvent accéder en quelques clics aux différentes notes obtenues de leurs enfants, aux renseignements des items du socle et prévoir l'organisation de la semaine selon les devoirs annoncés par les professeurs.
Et n'oublions pas l'accès aux abonnements numériques ou à l'espace Mon CDI. Et il est même possible de chercher des documents présents sur le serveur de l'établissement. Je trouve vraiment très pratique de pouvoir accéder de chez moi au réseau de mon établissement et de pouvoir récupérer tous les documents qui sont enregistrés au collège. Et il est même possible de travailler sur la plateforme de cours en ligne Moodle.
Et tout ça semble très impressionnant, mais j'imagine que c'est un formidable outil pour travailler spécifiquement avec les élèves.
Oui, l'ENT est à la fois un support pédagogique pour le travail en classe, mais aussi hors la classe. Par exemple, je peux aider l'élève à mieux s'organiser en lui montrant l'utilité du cahier de texte en ligne. Il peut retrouver la structure du cours, que je saisis au jour le jour, les documents support que j'ai déposés en pièces jointes, les liens vers les sites web consultés. Il peut aussi se souvenir de ce qui a été effectué en classe et se projeter dans la suite du travail à réaliser s'il le relit le soir chez lui. Cela facilite du coup ses révisions. Pour les élèves en difficulté, on peut ajouter des synthèses pour leur faciliter le travail. Et les élèves absents, bien sûr, sont beaucoup moins perdus quand ils reviennent en classe.
Et oui, le courrier électronique permet également aux élèves peu confiants de demander des précisions au professeur ou de rendre un devoir à ce dernier. Savoir écrire en s'adaptant à son destinataire fait partie des compétences que nous essayons de développer chez nos élèves.
Mais alors, ça veut dire que l'ENT est surtout un outil pour travailler en dehors de l'école ?
Non, parce que le danger est bien présent d'externaliser le travail hors du cours. Il faut se garder de cette dérive possible. Avant tout, l'ENT aide l'élève à se repérer dans le cours et surtout, il facilite les pratiques pédagogiques innovantes. Si l'on regarde les atouts de la plateforme de cours Moodle, ils sont multiples. Le professeur peut proposer des tests à ses élèves, insérer des ressources comme des images, des textes, des vidéos, faire écrire ses élèves grâce au dépôt de devoirs, faciliter l'apprentissage des compétences orales grâce à l'enregistreur vocal Nanogong. Et il peut même aider les élèves à échanger grâce au wiki, forum de discussion.
Angélique, es-tu aussi convaincue que ta collègue ?
Ah oui, tout à fait, oui. Surtout pour des travaux à long terme, l'utilisation de Moodle est vraiment très très performant. Si je prends un seul exemple dans les activités réalisées, la rédaction en ligne. L'élève pose une première version de son texte. En tant que professeur, je le lis, je la note et je peux lui retourner des commentaires. L'élève peut alors rectifier son travail avant de le déposer en version finale. Donc le travail qu'il me rend est davantage le fruit d'une collaboration. Cela fonctionne aussi pour des travaux à l'échelle de la classe, comme la simulation globale dont nous ont parlé Béatrice et Baptiste dans l'émission précédente. Et ce qui est sûr, c'est que ça favorise vraiment l'autonomie chez les élèves qui devient acteur de son apprentissage. En se connectant sur l'ENT, si j'élargis, il peut suivre sur un seul espace tout ce qui concerne sa scolarité. Ses notes, ses devoirs, son travail, les contenus qu'il doit maîtriser, les livres qu'il a empruntés, le travail à faire. Il peut accéder à ses travaux en cours de réalisation sur le Moodle, grâce au forum, au courrier électronique. Il peut entretenir un rapport beaucoup plus individuel aussi avec ses professeurs.
Donc finalement, cette centralisation des données scolaires est vraiment devenue nécessaire au moment où celles-ci se multiplient. L'ENT permet donc une meilleure lisibilité et une plus grande autonomie pour l'ensemble des acteurs de l'éducation, les enseignants, les parents et les élèves. moi, je trouve, enfin, nous trouvons que c'est un vrai bel espace à investir.
Les souris et les lettres.
La rubrique intitulée Les sites du jour est une sorte de mal au trésor que nos collègues ouvrent à chacune de nos émissions pour piquer votre curiosité, chers auditeurs des souris et des lettres. Aujourd'hui, ce sont Olivier Capès et Clément Bigot qui sont nos chercheurs de pépites. Et tous deux se sont attachés à fournir des ressources aux heureux possesseurs de tablettes numériques. Olivier, tout d'abord, s'est penché sur le catalogue des applications Android. Quelles sont donc ces trouvailles ?
Alors aujourd'hui, j'ai trois petites pépites et suite au témoignage de la dernière émission, je vous présente aujourd'hui des applications effectivement destinées aux tablettes fonctionnant sous Android. J'avouerai que je ne me suis pas renseigné pour savoir si leur équivalent existait pour iOS. En attendant, toutes ces applications sont proposées gratuitement par le magasin d'applications Android qui s'appelle Google Play Store et qu'on trouve assez facilement sur Internet. Tout d'abord, le conjugueur est tout simplement une application embarquée qui permet de retrouver rapidement la conjugaison d'un verbe de la langue française. Son principal atout est de rendre la conjugaison accessible indépendamment de toute connexion réseau. Elle permet ainsi la révision, la correction de production écrite ou d'exercice, un grand classique, mais toujours efficace. Ensuite, ListNote est une application étonnante qui permettra notamment à des élèves souffrant de difficultés dans le domaine de l'écrit de compenser éventuellement leur handicap. Il s'agit en effet d'un outil qui permet de transformer la voix en texte. C'est une fonction qui s'appelle généralement dans les domaines tablettes anglophones, qui est reconnue comme étant la fonction speech to text. Et donc, ça se présente sous la forme d'une note transférable ou récupérable par un simple copier-coller. Bien évidemment, le message transformé reste modifiable par l'intermédiaire du clavier de la tablette, par exemple, ce qui permet de corriger les éventuelles erreurs d'interprétation du système ou de compléter tout simplement le message. Après un court temps d'entraînement, les élèves pourront ainsi transformer facilement l'oral en écrit et participer normalement à des activités de production de toutes sortes. Enfin, troisième application, CamScanner est un utilitaire qui permet la récupération au format PDF d'une image prise par la caméra de l'appareil après en avoir éventuellement sélectionné les parties souhaitées. Comme son nom l'indique, c'est bien de l'utilisation d'une caméra comme scanner qu'il s'agit, idéal pour numériser un texte manuscrit, accompagné ou non de dessins ou de schémas et de le joindre à un courriel, par exemple, en somme, encore un outil indispensable. Comme d'habitude, vous retrouverez dans les documents d'accompagnement les liens utiles pour accéder à ces outils que vous pourrez facilement tester avant de les déployer éventuellement sur vos appareils et sur ceux destinés à vos élèves.
Clément, quant à lui, a puisé dans le catalogue des applications pour tablettes d'Apple. Mais dis-moi Clément, tu me sembles vouloir adopter un ton fort polémique pour débuter ta rubrique.
Eh oui Serge, puisqu'il s'agit de Candide. Candide, encore Candide. Que l'on enseigne au collège ou au lycée, lequel d'entre nous n'a pas déjà entendu des plaintes au sujet de cette œuvre, à l'annonce que tel ou tel collègue allait l'aborder, par extrait ou intégralement, avec l'une de ses classes? Pour ma part, il m'arrive de les entendre encore, ces questions rhétoriques. N'est-ce pas un manque d'originalité? N'est-ce pas la facilité qui impose ce choix d'études? Peut-être. Peut-être, mais poser ainsi les termes du débat, c'est oublier que nos élèves ne connaissent pas cette œuvre avant de l'avoir étudiée avec nous. C'est oublier que notre rôle consiste également à construire collectivement les fondations d'une culture commune, de notre culture. C'est aussi oublier qu'il existe l'édition numérique enrichie de Candide, réalisée conjointement par la BNF, Orange et la Voltaire Foundation. Cette édition permet de revisiter cette œuvre d'une façon originale, riche, profonde, ludique, et par là même de faire évoluer les conceptions de la littérature chez nos élèves, tout en rendant notre posture d'enseignant plus attractive en raison de l'adaptation de notre enseignement à l'évolution numérique à laquelle nos élèves sont très sensibles. Alors, cette édition enrichie est d'ores et déjà diffusée gratuitement sur iPad et Android éventuellement dans un second temps, ainsi que sur un site internet hébergé par la BNF, bientôt mis en ligne. Il convient de noter que l'application sur iPad est gratuite et aisément téléchargeable sur l'iTunes Store. Voilà qui devrait notamment intéresser Angélique et Olivier, eux qui manient la tablette avec leurs élèves, ainsi que tous les professeurs munis d'un vidéoprojecteur. Trois univers numériques distincts sont proposés pour ce voyage érudit au sein de l'œuvre de Voltaire. Le livre, le monde et le jardin. Le cœur de l'application est centré sur le livre et propose un affichage synchronisé du texte et du manuscrit de la BNF, ce qui est idéal pour comparer l'un à l'autre. Par ailleurs, la voix de l'acteur Denis Podalydès de la Comédie Française peut vous faire la lecture, ce qui constitue un intérêt non négligeable pour percevoir une interprétation du texte éventuellement différente de celle que l'on bâtit en classe avec les élèves. En un tap sur l'écran, vous pouvez accéder à un mode de lecture enrichi, apportant définitions, fiches personnages, lieux, concepts et illustrations du texte par des graveurs du XVIIIe siècle et même de Paul Klee. Cependant, il est nécessaire d'émettre quelques réserves au sujet de ce premier univers, et plus particulièrement à propos des résumés par chapitre. En effet, comment admettre qu'une présentation de ce début de conte évoque le départ de Candide comme un drame, alors qu'il s'agit plutôt d'un épisode bouffon, et que le mot d'ironie ne soit jamais utilisé pour définir le registre dominant dans la présentation du château ainsi que de la philosophie de Pangloss. Alors, cela dit, il est évident que cette application, au demeurant fort intéressante, ne sera profitable qu'à partir du moment où nous, professeurs, nous guiderons nos élèves et les aiderons à l'utiliser. Nul doute, donc, que nos auditeurs sauront faire relever et faire amender les quelques maladresses et incorrections de cette application par leurs élèves. Mais un autre univers complète cette application emblématique du savoir-faire numérique de la BNF. Une carte permettant de suivre le voyage de Candide, agrémentée d'approfondissements pédagogiques autour de l'œuvre. Ainsi, pour chaque étape de son odyssée, nous bénéficions d'un résumé sonore ou textuel. Pour 12 d'entre elles, un développement thématique est proposé, comprenant une exploration du thème construite en 4 parties. Découvrir, explorer, réfléchir et inventer. Sont ainsi traités par exemple les thèmes suivants, le paradis, la guerre, l'esclavage, l'image de l'autre, les femmes au XVIIIe siècle, etc. Enfin, un espace collaboratif permet d'organiser, commenter et publier ses favoris sous la forme d'un arbre. Chacun est ainsi invité à cultiver son jardin, plutôt sa parcelle, dans un jardin collectif. À partir des favoris enregistrés, il est possible, en ligne, de classer ses favoris, de les commenter et de les éditer. Cela se fait un peu comme on construit un PowerPoint. On crée des pages, on y introduit des éléments enregistrés, images, citations, notes, fiches diverses, extraits sonores. Le produit final prend la forme d'un document édité, consultable dans le jardin, mais aussi sur les réseaux sociaux ou sur son blog. Et tout cela peut être imprimé. Cette production peut être définitive ou ouverte aux enrichissements d'une communauté. Ainsi, vous pourrez, à titre d'exemple, construire votre production comme une série d'interrogations que chaque élève de votre classe viendra enrichir en une œuvre personnelle. Et visuellement, chaque production se présente dans le jardin comme un arbre de la connaissance.
Les souris et les lettres.
Alors que la dernière virgule sonore vient de retentir, il me reste à préciser que notre 12e émission s'accompagne d'un bonus audio fort intéressant. Il a été enregistré par Marie Pourriot et il est consacré à Prezi, un logiciel en ligne qui a l'ambition de révolutionner vos présentations multimédia. Vous devriez être averti de la mise en ligne de notre émission grâce à une nouvelle affiche arrivant prochainement dans vos établissements. Et comme c'est la dernière de l'année scolaire 2012-2013, laissez-moi donc vous remercier, chers auditeurs, des souris et des lettres, pour l'intérêt que vous avez porté au sujet que nous avons abordé. Mais permettez-moi aussi de rendre hommage à tous les intervenants qui se sont succédés à ce micro et qui se sont dépensés sans compter pour enrichir vos réflexions et vos pratiques. Vous pouvez écouter et réécouter l'ensemble de ces contributions ainsi que les bonus audio sur notre site académique. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook. Sur ces mots, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de vous et de vous donner rendez-vous à très bientôt sur la web radio.